Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La musique est un lieu privilégié de la mémoire des peuples oppressés. On peut brûler des livres, fermer des lieux de culte, détruire des musées, interdire des rites ou des cérémonies traditionnelles, et même massacrer des populations. Mais on ne peut complètement effacer une mélodie et les paroles qui l'accompagnent de l'esprit de ceux et celles qui ont survécu. La musique traditionnelle porte l'empreinte profonde de l'identité collective. Face à l'oppression, elle est à la fois force de conservation du passé, ambre sonore qui enferme et protège les fossiles d'une histoire presque effacée, et le moyen privilégié de témoigner du désespoir présent. C'est de ce constat qu'est parti Pierre Gatchel pour Surpris par la nuit, dans sa série documentaire Ukraine, Les silences de l'Empire. Dans le premier épisode, Dans la solitude des champs de blé, fut diffusé pour la première fois le 13 avril 2004. On y découvre avant tout un aspect méconnu de l'histoire de l'Ukraine et de l'Union soviétique. Staline, identifiant l'Ukraine comme ayant une identité trop marquée, trop forte, décide d'entamer un processus de destruction, le mot n'est pas trop fort, de la population et de la culture ukrainienne. À l'hiver 1932, l'URSS impose une collectivisation forcée aux paysans ukrainiens, confisquant les récoltes pour créer une famine artificielle. Cette famine fait plus de 6 millions de morts et laisse encore des traces indélébiles dans la conscience collective du peuple ukrainien, notamment dans son rapport, aujourd'hui plus conflictuel que jamais, à l'envahisseur russe. Pour raconter cet épisode, suivi d'une acculturation massive, tentant par tous les moyens d'effacer l'Ukraine de la carte et des esprits, ce documentaire prend le parti de passer par l'histoire de la musique traditionnelle ukrainienne et ce qu'il en reste au moment du reportage. Les récits se succèdent et se bousculent, exprimant parfois des points de vue contradictoires ou une nostalgie paradoxale de l'URSS. Mais avec en fond sonore, comme une basse continue, cette musique traditionnelle ukrainienne teintée de douleur et de mélancolie. À travers la figure du Kobzar, le barde traditionnel ukrainien, et l'histoire tragique des joueurs de Bandora, tués massivement par le régime soviétique pour éliminer toute trace d'une musique considérée comme dissidente, on découvre un paysage riche, vaste et ravagé, où la musique peine à cacher une souffrance voilée et silencieuse.
Surpris par... La nuit.
Ukraine, les silences de l'Empire. Pierre Gatchel, Jean-Philippe Navarre.
Де ти долю діла? Чи в морі втопила, чи в полі згубила? Як у полі загубила, йду шукати. Як у морі затопила, буду горювати.
C'est une chanson sur le destin, justement, une des chansons qui parle du destin. Ma mère, où tu as mis mon destin, soit tu l'as jeté dans l'océan, soit tu l'as perdu.
C'est une vaste plaine que l'on sillonne généralement en ligne droite. À perte de vue, des champs étalent un horizon qui semble avoir oublié toute idée de courbe. C'est une terre d'un noir profond, peuplée d'Ukrainiens, de Russes, de Juifs, de Moldaves, de Polonais, de Hongrois, de Roumains, de Tziganes, de Tatars de Crimée. C'est une terre qui aura enduré sans doute plus qu'aucune autre en Europe tous les grands traumatismes historiques du XXe siècle. Ouverte aux 80, entre Est et Ouest, elle a constitué une sorte de terre des confins des empires de l'Europe centrale. Indépendant depuis 13 ans seulement, que peut être la mémoire d'un pays après 75 ans de soviétisation ? Sur un territoire qui fut sous le joug successif de l'Autriche, de la Pologne, de l'Allemagne nazie, de la Russie soviétique, comment évoquer le destin de ceux qui ont été pris entre le marteau et l'enclume de leurs différents maîtres? C'est un jeu de pistes à la recherche d'une histoire, d'une mémoire possible des habitants de cette terre d'Ukraine, avec pour seul guide leurs paroles, leur musique, qui ne parlent toujours que d'une même chose, le destin. Nous suivrons leur fil ténu, coupé, recomposé. Elles s'inscrivent en creux de l'histoire officielle. Dans les silences de l'Empire. dans la recherche de l'identité d'un pays qui ne reste encore qu'une hypothèse.
L'identité ukrainienne existe, à mon avis, mais au niveau de la civilisation. C'est pas donc au niveau de la langue, mais la civilisation. Enfin,
Sacha Garatchouk, philologue.
Je suis quand même assez sceptique, si vous voulez, vis-à-vis de ces théories qui identifient l'identité, excusez-moi, le pléonasme, à la langue. Parce qu'à mon avis, il y a aussi d'autres codes, d'autres langages, et notamment celui de la musique, celui des chants, qui sont aussi des dépositaires de cette identité. En Ukraine, c'est même encore plus sensible, parce que l'Ukraine a toujours été un pays plurilingue. Quiconque vous dit le contraire, c'est il appartient à cette classe, à cette catégorie aussi, qui est très répandue aujourd'hui, qui essaye de désovietiser l'Ukraine par des moyens soviétiques.
Miroslav Papovitch, directeur de l'Institut de philosophie de Kiev.
Oui, c'est ça. Et le problème de l'identité nationale, c'est le problème très actuel pour nous aujourd'hui, parce que nous avons aujourd'hui l'État indépendant, mais ça ne signifie rien aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas encore identifiés nous-mêmes comme une nation monolithe. Et nous appartenons à la grande civilisation russe, c'est le fait. Et c'est pourquoi la tradition musicale, par exemple, ukrainienne, est absolument stricte, claire. Nous pouvons voir très clairement où est l'Ukraine musicale de ces pays.
Nadia, est-ce que vous vous êtes toujours sentie ukrainienne ou appartenant à l'Union soviétique?
Je suis arrivée ici en 1956,
ça va bientôt faire 50 ans. En général, je me suis toujours considérée comme une habitante de la campagne. Je me suis mariée et j'étais une campagnarde. Et je n'avais pas la notion d'être ou ukrainienne ou soviétique. J'avais mon village et lorsque nous allions à Moscou, alors là, nous étions des Ukrainiens. À la mort de Brejnev, tout le monde était en deuil et nous prenions nos repas, les tables étaient bien garnies et les ouvriers qui étaient à table sont sortis, ils se sont mis à chanter, ils ont dit
« Ukrainiens,
chantez ».
Tout
était en deuil et nous chantait assis à table. Ils ont fermé la porte car les autres gens, eux, pleuraient.
Chaque Ukrainien sait bien qu'il est Ukrainien. La culture polonaise n'est pas dans la situation de diffusion ou de mélange avec la culture ukrainienne. À la Russie, c'était une autre chose absolument parce que la langue russe, par exemple, n'était pas seulement la langue d'une population étrange ou étrangère. C'était la langue commune pour l'Empire. L'éducation était en russe dans tout le territoire de l'Empire. Tous les hommes culturels de Géorgie, de Kazakhstan, etc., parlent en russe. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas diviser strictement où finit l'Ukraine et où commence la Russie. La plupart des Européens ne savent pas que Dostoïevski était un Ukrainien. Et d'autre part, tout le monde sait que Gogol était un écrivain russe, mais Gogol était un Ukrainien, pas seulement du point de vue de son origine, mais aussi parce qu'il écrivait comme Ukrainien, comme l'homme de steppe du Sud.
C'est ça. les populations d'origine ont été soit décimées, soit déplacées, déportées. Et donc c'est très difficile maintenant de retrouver ses origines et ses racines. Très difficile.
La scène se passe de nos jours dans un petit village de paysans, quelque part en Ukraine centrale, non loin de Poltava, à la lisière de l'hiver. Une vieille babouchka sarcle son lopin de terre. Elle se relève lentement et s'approche. Elle s'accoude à la clôture de bois avec trois pommes de terre dans les mains. Il y a 70 ans, elle aurait été déportée pour cela et ses pommes de terre confisquées. Nous avons devant nous ce que Molotov appelait à l'époque la base sociale du nationalisme ukrainien, et qu'il fallait, toujours selon ses propres mots, détruire. En désignant les petits propriétaires terriens d'alors, Staline ordonne en 1932 de liquider les koulaks en tant que classe. Baba Hanna relève son fichu de babouchka et se met à nous parler. Elle nous dit que ce matin, un esprit malfaisant est venu la frapper traîtreusement dans son champ. Elle en souffre encore. Elle a 92 ans. Elle avait 20 ans pendant l'hiver 32-33.
Et c'est comme ça que mon fils a disparu.
Baba Hanna, vous êtes la doyenne du village. C'est pour ça que je tenais à venir vous voir en premier et qu'on évoque un peu ce qu'a été votre vie dans ce village. Si vous
en France, les gens n'ont pas connu autant de
peines. Je ne peux pas dire que nous avons vécu une bonne vie.
Il y avait la famine qui a fait disparaître la moitié des gens. Ils sont morts, surtout les vieux.
Toute la vie, j'ai passé dans ce village. Elle est née en
1912.
Et je vous dirai, Lénine était très gentil. Parce que c'est lui qui a chassé les propriétaires terriens et qui a réparti les terres entre les pauvres. Il a réparti les terres. Quand il y avait 7 bouches dans la famille, il donnait 7 arts. Quand il y en avait 8, il donnait 8 arts. La moitié a quitté la campagne. Avant, regardez, le pain, ça coûtait 20 copecs. Et maintenant, c'est 7 roubles.
On était bien parce que chacun avait son morceau de terre. Lénine a donné à tous les pauvres les terres. Et maintenant, ce qui se passe dans la vie actuelle, ce sont comme des anciens propriétaires qui font tout ce qu'ils veulent.
Et maintenant, les gens qui sont au pouvoir disent que vous pouvez prendre les terres. Mais comment les gens peuvent prendre cette terre s'ils n'ont ni chevaux, ni outils pour travailler ces champs?
En 1933, j'avais 9 ans et je me souviens de tout. Nous étions 4 enfants. Mon père fabriquait des pots en terre cuite. Et avec maman, ils allaient dans les villages alentour pour les échanger contre un peu de nourriture. Les parents absents, voilà que des invités surgissent. Ils sondent les sols et les murs avec des barres de fer. Nous demandent où papa a camouflé la farine. Dites-le nous, on vous donnera une miche et vous pourrez manger. Puis ils ont emmené la vache. Un jour, mes parents ont cessé d'aller proposer leur poterie. Ils avaient enflé. Nous, les enfants, nous étions déjà bouffis. Oh, comme nous demandions à maman de quoi manger. Mon plus jeune frère ne cessait de pleurer, et à l'aube, il est mort. Dans la matinée, ce fut mon frère aîné, né en 1920. Ils étaient étendus l'un près de l'autre, et maman pleurait. Ce même jour, dans la soirée, ma sœur a trépassé à son tour. Ils étaient 3 maintenant. Tous horriblement ballonnés. C'était terrible à voir.
Barbarana, je voudrais qu'on profite de la chance de pouvoir vous rencontrer, parce qu'il est très rare de pouvoir trouver des témoins de ce qui s'est passé dans les années 30.
Non, je n'ai rien oublié. Nous avions faim, on mangeait des feuilles, des pommes de terre. Personne n'a souffert autant.
Je n'ai rien oublié. Je me souviens très bien de cette période. J'avais beaucoup de problèmes. J'ai été malheureuse en ce moment-là. À cette époque, je gardais le bétail et je n'avais qu'une toute petite tranche de pain pour manger et je n'avais plus rien. Je devais ne plus avoir faim avec cette petite tranche. Voilà, on était malheureux. Voilà, peut-être que je pourrais vous inviter dans ma maison pour manger quelque chose, mais j'ai rien à manger.
Est-ce que dans sa famille, il y a eu des disparitions avec la famille?
Moi, pour moi, les ranches, de holod. Ah, c'est holod, jak buda, c'est to dvojurodni. Вот так это уже померли.
Mes parents sont morts avant la famine. Pendant la famine, mes cousins, mes cousines, beaucoup de mes cousins et mes cousines sont morts.
Maman a dit à un voisin : j'en ai déjà trois de partis. Le voisin l'a rapporté au soviet rural. Deux délégués sont arrivés en camion. Ils avaient des brassards rouges sur leurs manchettes. Ils ont placé mes frères et ma sœur côte à côte dans le camion et les ont emportés. Mon père est mort 2 jours plus tard. C'était un soir, un samedi. J'ai passé la nuit couché près de lui. Le dimanche matin, maman m'a dit « Mon enfant, va dans le coffre et apporte-moi du linge et des vêtements propres. » Je les lui ai donnés. Elle s'est changée, s'est allongée, et elle est morte. Mon père et ma mère sont restés ainsi étendus jusqu'au lundi. C'était au mois de mai 1933. Le lundi, un parent est passé à la maison. Il a rapporté au soviet rural que mes parents étaient morts. On est venu les chercher et on les a emportés hors du village dans une fosse.
Вже забрати давніше. А ну, що було трошки доїли. І не дають, і нема нічого. І все, ніхто не давав.
Tout ce que nous avions comme propriété pour manger, tout ça a été pris avant la famine, beaucoup avant déjà. On n'avait plus rien au moment de la famine et le système des kolkhoz, c'était comme ça qu'on n'avait pas de terre, mais c'était le kolkhoz qui donnait de la nourriture, qui donnait du blé. Et justement, à cette époque-là, le kolkhoz n'a rien donné aux gens. Et c'est pourquoi ils ont fini à manger tout ce qu'ils avaient de leur potager et ils n'avaient plus rien à manger.
Ou en Amérique, ou dans ces étranges,
ils et maintenant, les gens, ils se sont enfuis, soit en France, soit aux États-Unis, soit en Amérique. Et ils veulent pas rester ici. Il n'y a pas de travail. On ne paye pas d'argent pour le travail.
Pendant l'hiver 1932, la collectivisation forcée des paysans ukrainiens pour rentrer au kolkhoz s'accompagne du collectage systématique du moindre grain de blé. Des centaines de milliers de paysans seront déportés en Sibérie. L'intelligentsia ukrainienne exterminée. Le reste des paysans ukrainiens sera réduit à la famine, planifiée, organisée. Il y aura 6 millions de morts. Les habitants des villes ne sauront rien du génocide. Roman Serbine, historien.
Le plus grand crime contre le peuple ukrainien, c'était la famine. Je pense que les objectifs principaux étaient de, si vous voulez, le casser l'épine dorsale de la nation ukrainienne. Parce que pendant les années 20, il y avait un renouveau national en Ukraine. Les paysans qui étaient pour 80% de la population fluaient vers les villes. Et la paysannerie était ukrainophone, de culture ukrainienne, et tandis que les villes étaient auparavant assez russifiées. Alors ces paysans ukrainisaient les villes. Il y avait une politique de ce qu'on appelait l'indigénisation en Ukraine. Ça voulait dire que le régime essayait de se faire comprendre, de s'accepter un peu mieux, et donc utiliser la langue ukrainienne, par exemple, dans l'administration, dans les écoles, ainsi de suite. Et aussi, à la fin des années 20, début des années 30, c'est la période d'industrialisation. Alors, industrialisation, ça veut dire que l'Ukraine aurait une base économique très forte. Alors, déjà, c'était le grenier, n'est-ce pas, de l'Europe. Alors, si on prend tout ça ensemble, on voit qu'il y avait un danger que l'Ukraine se sépare. Et d'ailleurs, on a des documents, des lettres de Staline à Molotov, n'est-ce pas, qui parlent de ça. Alors, la meilleure façon, c'est de introduire une politique de russification, ce qui était fait, de briser la paysannerie, éliminer un bon nombre de paysans, c'est-à-dire par la mort, par la famine. Et il faut dire que la famine était plus efficace comme moyen de lutte que, par exemple, les armes, parce qu'on ne peut pas se cacher de la faim, n'est-ce pas?
D'automne 1931 à automne 1933, je servis dans l'armée rouge à Hayshin, région de Vinnytsia. J'ai terminé l'école de sous-officier avec le grade de sergent-chef et j'ai été nommé commandant d'unité dans la 9e division de cavalerie de Crimée. À l'armée, nous étions bien nourris et nous ne connaissions la famine que par ouï-dire. Au printemps 1933, je suis convoqué chez le commissaire de brigade. J'étais déjà candidat membre du parti, qui m'ordonne d'aller chercher des rations. Je dois partir dans la région d'Odessa pour pomper le grain chez les Koulaks. Je reçus des rations, des galettes, du sucre, des conserves, l'arme de combat, une carabine et des munitions, et avec un autre soldat de l'armée rouge, nous sommes partis pour Odessa. Tous deux, nous devions rejoindre le village de Yassinouvata. La direction du kolkhoz avait créé une commission pour le pompage du grain. Nous, les deux soldats armés de carabines et quatre ou cinq activistes du village, nous allions par le village avec une longue sonde. Nous l'enfoncions dans la terre et regardions dans le creux ce qu'il y avait au bout de la sonde, s'il n'y avait pas de grain dessus. Le grain que nous trouvions était déterré et confisqué au profit du kolkhoz. Mais nous n'en trouvions que très rarement, car ce n'était pas le premier pompage. Les foyers étaient pauvres, pas du tout des foyers de koulaks. Nous prenions, si nous parvenions à le trouver, ce qui restait. Officiellement, c'était appelé des excédents. Ensuite, nous sommes allés plusieurs fois au chef-lieu du district, d'où l'on amenait par chariot les semences au kolkhoz. Nous protégions ces chariots avec nos carabines. Nous voyons souvent comme l'on transportait des cadavres dans les chariots, parfois des familles entières, 5-7 âmes à la fois. Nous avons vu comment on avait enterré un cheval crevé au cimetière pour animaux et comment immédiatement les gens affamés l'avaient déterré, découpé et emporté dans leur maison.
Quand il y avait la famine, vous savez, je ne suis pas très cultivé, je ne sais plus. Par exemple, on mangeait les feuilles des arbres.
Il ne s'agissait pas de tuer l'ensemble de la population parce qu'il fallait quand même avoir des esclaves pour construire l'Empire soviétique, mais une bon nombre pour en plus terroriser le reste du pays et soumettre complètement.
Валерій
Мармель, директор du musée de la Bandoura de Périaslav-Melnitsky.
Par exemple, Movchan a écrit Les blés de printemps, un très beau chant sur une musique de Liskouchata et d'autres paroles dans la vraie tradition populaire ukrainienne. Mais à l'ouverture des archives du KGB, on n'a pu retrouver que les paroles, mais pas les musiques, car elles n'avaient pas été notées de ce chant, de cette douma sur la famine des années 32-33. Quant à la mélodie, on ne sait qu'une chose, elle était très triste. Et tous ceux qui l'ont entendu sont morts. Et Movchan a dit à son ami Tkachenko, qui était comme son frère parce qu'ils sont nés le même jour, au mois de mai 89, « Je suis puni parce que j'ai menti. » Mais ce qu'il avait en tête, on ne le sait pas. Le Kobzar Movchan, comme son nom l'indique, était contraint de se taire pour survivre. C'était le destin.
Ce génocide était caché. Les étrangers, les journalistes étrangers n'étaient pas permis de visiter, de voir. Quelques-uns qui étaient, disons, proches du régime, qui acceptaient de mentir, étaient acceptés. Par exemple, les Français, Rio est allé, on a, comme on dit, en histoire russe, on a construit des villages de Potemkin, c'est-à-dire des faux villages dans lesquels Rio voyait des gens déguisés en paysans, bien nourri, bien portant. Alors il disait, c'est la propagande anti-soviétique, il n'y a pas de famine. Donc, et le régime soviétique a nié l'existence de la famine jusqu'à la fin du régime soviétique, jusqu'à vers la fin des années 80. Et c'est seulement avec la chute du pouvoir soviétique, du Parti communiste, qu'on a pu maintenant commencer à déblayer les documents soviétiques, des archives soviétiques.
Наші загаду, де за пташка вакує. Ой, то ж не пташка, то ж ваша дочка, дищася в родила. Дай би золі зросла. О, це ж таке. Отак співали.
Oui, c'est comme ça que l'on chantait. C'est l'âme qui chante. Mais on vieillit, on n'a plus de voix pour chanter.
Je voudrais comprendre pourquoi elle dit continuer à aimer Lénine là où les soviets sont venus prendre ses récoltes dans les années 30.
Ce n'est pas lui, ce sont les maîtres. Dès que lui, il a divisé les terres, vous savez, ça a été comme ça. Les gens se sont mis à danser parce qu'il avait divisé la terre. Vous comprenez, hein? La fleur de farine, les pirochki, le pain, tout ça, c'est le kolkhoz qui nous l'a pris.
Mais après, il y avait de nouveau les propriétaires, les paniers qui sont venus et qui sont faits les kolkhozes. Les kolkhozes. Et ce sont des enfants des anciens propriétaires, peut-être, qui ont fait des kolkhozes. Et nous sommes redevenus pauvres parce que nous n'avions plus de terre et nous étions obligés à aller travailler sur les champs des kolkhozes pour rien. Nous ne nous étions pas payés. Et Lénine, elle a été tuée.
Je vous
voudrais comprendre pourquoi, quand on se promène, quand on voyage dans la campagne ukrainienne et qu'on rencontre d'anciennes babouchki, d'anciennes grand-mères ukrainiennes, paysannes, qui ont connu, qui ont vécu la famine, pourquoi, quand on les interroge, très souvent, bien qu'elles en aient été victimes, elles ont une immense nostalgie pour le régime stalinien.
Oui, ça c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, je pense, de sauvegarde de mémoire. Je pense que la mémoire de la famine était d'une certaine façon pas oblitérée, mais comme remplacée par une autre mémoire. Et aussi, je pense qu'ils étaient habitués à cette longue période de mensonges d'État. Vous savez que les Allemands disaient ça très bien. Si vous mentez assez longtemps, les gens finiront par croire. Et pas seulement ça. Il y a un autre facteur aussi, c'est que l'indépendance, c'était une grande perturbation. Les vieux, qu'ils attendaient à terminer leur vie en paix, ça leur a perturbé. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'en Ukraine, pas seulement les oligarques, mais aussi qu'on appelle les nouveaux Ukrainiens et d'autres personnes qui ont plus ou moins volé l'État, privatisé les biens de l'État et qui ont laissé une bonne partie de la population, surtout les vieux, qui n'ont pas de famille pour les soutenir, un peu à merci.
Baba Hana, vous êtes aussi la mémoire musicale, je crois, de ce village. C'est vous qui avez appris à chanter à toutes les femmes du village.
Chez nous, on chantait bien. Tant que moi, je pouvais, mais elle, c'était... Je cherche quoi chanter, mais tu vois, tout m'est sorti de la tête. Tu vois, Leïda, qu'est-ce que c'était? Tout est sorti de la tête. J'aurais voulu en chanter une plus belle, mais j'ai oublié, par exemple, la mère et son miroir.
Ой, давно-давно матінки було, і уже ж тогда річка за терном заросла. Ой, не так терном, як шипшиною. Це строкова. Де ми походили, де із матінкою. Ну, далі не знаю.
Je connais pas la suite.
Я схочу терень висічу. Колючу шипшину да в припилі вилумню, припиль вилумню до своєї неньки. Да в гості жи поголину, летіла сада, ми садило мила, летіла лугами, да й луги топила. прилетіла сіла в матінки в саду. Но ти орішені, що на край саду. Вийшла мати з хати.
Qu'elle chantait ici, c'était beaucoup des complaintes.
То, що ви співали, да, коли це саме як ви жалілися, да, на долю, що це, ну, сумні пісні були.
Да. А чоловік у мене хороший був. Я та гірське таке, він красивий. Ми могли ти жінці.
Je chantais très souvent des chansons tristes parce que la vie, elle était triste, elle était toujours triste.
Et mon mari,
il a été très très beau. C'est moi, je ne suis pas belle. Je ne suis pas belle. Et lui, il était très beau, mais il a été tué à la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, je n'ai plus envie de chanter.
Nous sommes au cœur du Tchernozium. De cette terre si noire et si riche, du grenier à blé de tout l'Empire. Ici, il y a quelques années encore, le kolkhoz Karl Marx, le kolkhoz Lénine, produisait du blé pour toute la Russie et pour les autres républiques. Aujourd'hui, même les cimetières de tracteurs des fermes collectives ne sont plus. Les carcasses des machines agricoles ont été démontées pour être revendues en pièces détachées. La plupart des champs sont en friche, faute d'outils. Dans cette région de Poltava, on peut encore trouver, paraît-il, dans les villages, quelque chose de ce qui pourrait être ou de ce que voudrait être l'âme de l'Ukraine. Quelque chose d'intouché, d'inviolé par l'histoire. L'image d'un monde rural, avec robes brodées, longues nattes et femmes revenant en chantant de la moisson. Sur le bord de la route, Mishka, le petit ours mascotte des Jeux Olympiques de Moscou en 1980, sourit encore. Comme une icône soviétique, miraculée de la perestroïka. Tatiana, ethnomusicologue.
Nous allons au village de Krivchika, dans la région de Poltava. Ce sont des gens tout à fait ordinaires qui habitent là-bas, mais qui chantent des chansons certainement depuis leur naissance, car dès qu'ils sont venus au monde, ils ont appris ces chansons par leurs parents, par leurs grands-pères, leurs grands-mères, et c'est comme cela que cette culture est arrivée jusqu'à nous. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de cette région est assez spécifique du fait qu'elle fut l'épicentre de différentes batailles durant la période des invasions tataro-mongoles. Et le résultat de ces batailles fut que les populations autonomes qui vivaient à cet endroit furent quasiment exterminées. Mais des habitants d'autres régions d'Ukraine, de ceux qu'on appelle la Petite Russie, vinrent s'installer ici. Ils se mélangèrent avec les restes de la population locale et formèrent ainsi une nouvelle culture. Évidemment, la plupart des gens qui vinrent dans cette région étaient des Cosaques avec les grands traits Cosaques, c'est-à-dire le courage, l'héroïsme, l'indépendance. Je vous dirais que ces caractéristiques ne relèvent pas du mythe. On peut les constater dans la réalité. Par exemple, une femme de là-bas, tout à fait ordinaire, possède ces traits de caractère typiquement Cosaque. Elle est indépendante, sûre d'elle. La plupart de ces traits se sont conservés par les chansons.
Dans l'Ukraine moderne, l'image du Cosaque n'est jamais loin. L'icône mythique des combattants Zaporog à longue mèche, résistant à l'envahisseur tatar venu des steppes lointaines, ressurgit sur les billets de banque. Sur les fresques murales, le Cosaque moustachu a remplacé l'ouvrier socialiste et le kolkhozien. Les kobzars, ces vieux bardes immémoriaux venus du fond des âges, décimés par les tsars et par le pouvoir soviétique, les accompagnent. Ces chanteurs épiques nous reviennent, fantômes exhumés d'un monde d'avant les soviets, d'avant les tsars, d'avant les russes.
Як солета мама.
Ainsi, on ne pouvait pas ne pas les persécuter. Un peu plus tard, le système des valeurs traditionnelles des Kobzars est entré en contradiction avec le système qu'on imposait au peuple. Mais ces chants frappent les esprits et chaque Ukrainien, qu'il le veuille ou non, se doit d'écouter ces leçons qui lui viennent de sa propre histoire.
Est-ce qu'on peut évoquer qu'est-ce que ça a été la période de russification de l'instrument, des textes, des chansons?
La russification, c'est un phénomène total. Et en Union soviétique, tout était comme ça. Ça touchait tous les côtés de la vie. Les répertoires des chœurs étaient contrôlés. À chaque fois, le répertoire de chaque chœur devait être validé, signé, autorisé. Et bien entendu, il fallait y placer obligatoirement des chansons sur Lénine, des chansons russes. Il faut renforcer l'amitié entre les peuples, n'est-ce pas? Mais le Kobzar, quand il était seul, pas dans les clubs culturels, mais dans la rue ou sur un marché, il chantait sa tradition. Il reprenait les formes de la tradition. Le pouvoir faisait ce qu'il fallait pour empêcher cela. Mais les Kobzars se débrouillaient, d'autant plus que le peuple les soutenait.
Taras Kompanichenko, bandouriste.
З його репертуару про Хведора безрідного. Це епічний твір.
Je vais vous chanter une chanson épique d'Ostap Veresaï. C'est la lamentation de Fedor l'orphelin. On appelle ça la lamentation d'un serf. Un psaume cosaque. Une chanson du Zaporogier de la région de Poltava.
Ой, по потребі, барзо царський, та тамтого війська гей понажено, та через мечу положено, та не єдиного тіла козацького, молодецького, живого не зустановлено. Та тільки то поміж тим трупом Хведор безодолений, посічений та порубаний, та й на рани смертельний і не змагає, а коло його чура ярема гей промешкає.
А з радянських часів, чому я це все сказав, то з цього і почав.
Роман Гринків, бандуріст.
Почали нищити
період совєтів, середини. Мало того, це не було... Тільки так, не типа кю
фізичне винищування. Що таке ідеологічне? Це брали пісні, які
les Soviets prenaient les chansons sur le thème de Kobza et ils falsifiaient les paroles pour montrer que les Cosaques étaient de braves soldats de l'armée rouge. Ils ont modifié les mots comme s'ils voulaient démontrer que tout ce qui était vieux était effrayant, martyr. Alors qu'avec la période soviétique, l'avenir était radieux, il y avait l'esprit du Kobzar, la cour céleste du Kobzar, le sentiment de liberté.
Il
devait chanter quelque chose de joyeux. Chez chaque écrivain soviétique, on trouvait des chansons de l'époque soviétique, des chansons gays, des chansons à la gloire de Lénine, du parti. Tout cela était fabriqué pour montrer que les devins, qui étaient traditionnellement les Kobzars, chantaient les chansons les plus novatrices.
І так, щоб сказати, чому знищили бандуру як інструмент, навпаки,
pour vous dire pourquoi la bandura a été anéantie, c'est qu'au contraire, on a commencé à en fabriquer en masse, mais toujours le même modèle.
І разом з цим випускали.
Et en même temps, on fabriquait des balalaïkas, des dombras, tout en même temps. pour en quelque sorte faire un internationalisme musical. Ça ouvrait sur le futur, c'était super pour ceux qui avaient façonné cette idéologie. Ils ont constitué comme un cercle idéal où l'on considérait le côté idéologique des choses. Les instruments ont fait leur apparition en nombre et tous pouvaient s'en acheter un pour quelques
copecks.
Par ailleurs, les instruments envahirent les universités partout, mais tout de suite, il y en a eu un grand contrôle, le contrôle du répertoire et des lieux de concert. Mais Dieu en a décidé autrement.
Dans la région rurale où on va aujourd'hui, dans la région de Poltava, les paysans qui ont travaillé là-bas ont travaillé pendant des années dans des champs collectivisés. Est-ce que la tradition a pu continuer d'exister? Comment la tradition a pu continuer d'exister malgré la collectivisation du travail et de la vie?
C'est une question difficile, car d'un côté, on peut parler d'une influence négative durant la période de naissance de l'Union soviétique. Et alors apparut une pseudo-culture populaire qui était basée non pas sur la culture traditionnelle, mais sur une variante murale de la culture traditionnelle. C'est là que sont venus au monde des phénomènes artificiels comme les chorales populaires, les ensembles populaires de danse. Les principes de construction et de réalisation de la musique étaient absolument différents. C'est à cette époque-là aussi qu'est apparue la culture de club, de maison de la culture. Il y avait des gens formés en ville et désignés dans ces clubs pour que ces responsables enseignent quoi et comment chanter. Et ils imposaient leur répertoire. Et bien sûr, les traditions ont évolué. Et sur scène, on disait aux femmes qu'il ne fallait pas chanter comme cela, que c'était mal élevé, qu'il ne fallait pas faire « you » à la fin des chansons. Il fallait chanter tout doucement.
En arrivant dans le village de Krivchivka, on ne voit que des femmes. Personne en dessous de 50 ans. Toutes ces anciennes kolkhoziennes distillent leur propre vodka, qu'elles boivent aussi elles-mêmes. La vodka chic, c'est celle que l'on fait au bois de bouleau. Et pour chanter, il faut passer à table et la consommer. Vladimir Skouratovsky, critique et écrivain.
Étrangement, l'Ukraine n'est pas encore parvenue à être une entité nationale. Depuis le démembrement de l'Empire, ils sont restés une ethnie dont le principal caractère est la musique, et en premier lieu, bien sûr, la musique folklorique. Il suffit que 5 ou 6 Ukrainiens soient à table pour qu'ils se mettent à chanter. Et comme il se doit, ils chantent de vieilles chansons populaires ukrainiennes. Pour vous parler franchement, il y en a beaucoup que ça agace. Mais C'est un devoir pour nous que de devenir une nation. Or, cette abondance musicale apparaît comme la marque d'une minorité ethnique et non d'une vraie identité nationale. Au début du totalitarisme communiste en Ukraine, cette musique, et comme tout le reste ici, a été prise en otage par les structures politiques. Mais c'est aussi à partir de la musique qu'on a commencé à se libérer du totalitarisme. D'ailleurs, ça a été une période très intéressante dans l'histoire de la culture ukrainienne.
Nadia.
À moi, le pouvoir soviétique n'a rien fait, ni bien, ni mal. Quand on montait sur scène, on chantait tout simplement. Notre village a toujours gardé son activité artistique d'amateur. On n'a jamais inclus de chansons sur le parti, sur Lénine, comme il y en avait. Nous chantions nos chansons ukrainiennes. La première fois, on a inclus une chanson d'Ozerechko. Nous l'avons chanté et on nous a dit que c'était une chanson paillarde de banquet. Ceux qui voulaient et ceux qui faisaient attention, ceux-là chantaient. Nous, ça fait 60 ans, on est allé à l'école en 56. On se déguisait avec des rouchniki et on allait chanter des chansons et lancer du grain pour le nouvel an. Et personne ne nous a jamais rien dit. Il y a une chanson que j'ai chantée lorsque nous sommes allés à Kharkiv. J'ai obtenu la première place et j'ai fini en larmes.
Ой, на що ж ти мене, мати, на світ породила? Краще б ти мене малою мрію топи. Морі б утопила, камнем придушила, щоб я й не зринала, долі не шукала. Скажи ж мені, моя мати, де ти долю діла, чи у морі утопила, чи в полі згубила. Як у полі загубила, то піду і шукати, а у морі затопила, буду горювати. Ой, наш...
C'est une chanson sur le destin. Soit tu l'as jetée dans l'océan, soit tu l'as jetée dans les champs. Ma mère, pourquoi m'as-tu mise au monde?
Vadim Skouratovski, justement, quand on écoute les musiques des différentes régions d'Ukraine, malgré la diversité historique, malgré la diversité ethnique, il y a quelque chose qui revient toujours dans ces musiques, c'est le sens du destin tragique, justement. On a l'impression que les Ukrainiens regardent leur histoire aussi, toujours sous le sens de la tragédie.
En effet, malheureusement, vous avez raison. En fait, ce monde est tragique du fait même de son origine. Au Moyen-Âge, Kiev, la capitale de ce monde, se trouvait aux confins de la forêt européenne et des steppes eurasiennes. C'est pourquoi, au moment des invasions mongoles et des grandes migrations, la ville de Kiev périt. Ça s'est passé au XIIIe siècle, mais malheureusement, l'Ukraine n'a jamais pu retrouver sa place dans la politique du monde. Elle était en quelque sorte bloquée entre trois capitales étrangères, Varsovie, Istanbul et Moscou. Et avec chacun de ses voisins, l'Ukraine avait des relations complexes et bien souvent tragiques. En ce qui concerne la Pologne et la Turquie, nous avons réglé nos comptes. Mais avec la Russie, tout peut encore arriver. Tout ce qui se passe en Ukraine est lié à notre dépendance par rapport à nos voisins. Pour vous parler franchement, quand on dépend à ce point de ses voisins, on a peu de chances de bien s'en tirer à son avantage. Et la dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est que dans ce genre de situation, on ne va pas chercher à s'accomplir dans la politique, mais dans la création musicale, par exemple. Et le folklore ukrainien, c'est un immense océan. Comme l'a dit Grouchevski, qui fut l'un des guides du nationalisme ukrainien, nous chantons malheureusement trop bien.
Ce que je chante comme je me sens. Lorsque je fais paître ma vache au marais, je chante pour moi-même. Mais après, la chanson se finit dans les larmes.
Il a été pris à l'armée, Victor. Il voulait qu'on l'accompagne et qu'une voiture vienne le chercher. Et là-bas, il a dit aux femmes de le prendre. Sa femme était directrice, elle était jeune, elle s'appelait Galina Ranchka. Elle est morte maintenant. Nous sommes partis l'accompagner, il y avait ma sœur. Elle est morte aujourd'hui, elle aussi. Son mari, c'était un bel homme, il jouait bien de l'harmonica. On arrive et tout le monde pleure. Et sa mère pleure aussi et nous, nous sommes mis à chanter « Oh, est-ce le destin qui a entraîné le jeune homme dans le malheur ?» Et sa mère était inconsolable et elle savait bien qu'il n'irait pas avec une jeune fille comme il faut, qu'il valait mieux qu'il aille à l'armée pour ne pas pleurer. Nous l'avons accompagné, son père, sa mère et nous à l'harmonica. Et on s'est dit adieu. Un de ses amis est venu vers moi et m'a tiré par le bras. Et on n'était pas vraiment loin du camp où on prenait les jeunes gens. Il m'a dit au revoir à moi en premier. Il me demandait « Qu'est-ce qui va se passer ?» Et les jeunes gens lui crient « Mais enfuis-toi » Et sa mère qui se remet à pleurer, c'en est fini d'elle. Il a fait son armée, il a servi comme marin, il envoyait des cartes postales, des lettres, et à moi, pas une seule.
Матінко моя, де ти долю діла, чи морі втопила, чи в полі згубила, як у полі загубила, то йду шукати. Як у морі затопила, буду горювати.
Comme j'ai pu lire sur la pochette d'un vieux disque de chant des peuples soviétiques, ce qui frappe d'abord dans cet enregistrement, c'est son air de santé rayonnante et sportive, sa franchise, son regard clair et droit. Elle contraste heureusement avec tant de musique où de mauvais jazz commerciaux invitent à des rêveries faussement sentimentales. Ici règne l'optimisme, l'enthousiasme et la candeur. La musique est fort simple, bien sûr, mais que lui demande-t-on sinon de chanter avec aisance, d'être ouverte à tous, de se laisser retenir sans peine ? Voici un air d'une inspiration franchement populaire et conservant la pureté lyrique des vraies complaintes villageoises ukrainiennes.
Sur quoi peut se fonder le rapport des Ukrainiens à leur propre mémoire et d'abord à leur propre mémoire collective ?
Vous savez que ce qu'on appelle la mémoire collective, c'est en fait une construction plus ou moins artificielle.
Roman Serbin, historien.
C'est une mémoire qu'un groupe, un État ou un peuple, un groupe quelconque, veut retenir de son passé à des fins plutôt politiques. Alors le régime communiste a essayé de créer, et a bien, assez bien réussi, créer une mémoire collective basée sur la Deuxième Guerre mondiale. Et cette mémoire était très importante dans la formation de la conscience nationale des Ukrainiens. Alors, ceci consistait en deux choses, c'est-à-dire le pire, tragédie, la pire tragédie, le pire crime aussi contre le peuple ukrainien, c'était l'invasion et l'occupation nazie. Et c'est vrai d'ailleurs que c'était terrible avec des millions de victimes. Et le plus grand acquis donc, pour le peuple ukrainien, selon cette mémoire collective, c'était la grande victoire, donc la soi-disant libération de l'Ukraine. Bon, voilà un...
Des premiers grands mythes.
Un grand mythe. Et il y a une autre conscience nationale, si vous voulez, il y a une autre tradition de mémoire collective qui dit ceci, que le plus grand crime contre le peuple ukrainien, c'était la famine. Et le plus grand acquis pour le peuple ukrainien, c'est l'indépendance. Mais dans les deux cas, vous voyez, l'ennemi n'est pas la même personne. C'est-à-dire, pour ceux qui soutiennent la deuxième thèse, c'est Moscou, c'est le régime communiste qui était le pire ennemi, parce que c'est lui qui avait créé la famine et c'est lui qui a empêché l'Ukraine de devenir indépendante. Et en Ukraine, actuellement, il y a une lutte, si vous voulez. D'une certaine façon, on peut dire que la Deuxième Guerre mondiale en Ukraine n'est pas terminée. C'est une lutte idéologique pour, justement, la mémoire. Quelle mémoire collective va triompher, finalement, en Ukraine ?
C'est le chaos complet dans cette mémoire collective. Disons que cette mémoire est déchirée entre une certaine idéalisation du passé soviétique et sa cruelle réalité. Mais disons que le citoyen ordinaire ne se souvient pas de la réalité de l'époque soviétique. Il se souvient surtout des slogans de l'époque. Et les gens confondent ce passé avec ces slogans. Ces slogans, ils étaient partout. On les entendait tous les jours à la radio, on les voyait à la télévision, ils transparaissaient dans la littérature et le théâtre, etc. Mais en général, tout ça, c'était de la fiction et non de la réalité. L'homme d'aujourd'hui éprouve une certaine nostalgie de cette vie idéalisée. Or, la réalité était tout à fait différente. Et c'est justement cela dont la mémoire collective ne veut pas se souvenir. C'est un phénomène très intéressant, mais tout aussi tragique. Et justement, c'est de cela même que traitait votre célèbre penseur pro-marxiste Georges Sorel quand il parlait des mythes collectifs. Je pense que ces mythes s'éteindront avec les générations qui les ont portés. Quant aux nouvelles générations, les jeunes ne connaissent simplement pas bien cette époque-là.
Les chansons dans Sio.
Союз нерушимый, республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный верой народа великий, могучий, единый союз. Славься, Отечество наше свободное.
Они помнят только об успехах.
Ils ne se rappellent que les succès du foot soviétique, des ballets soviétiques et des cosmonautes soviétiques. Et c'est à ça que s'arrête leur connaissance de ce monde-là. Mais il est plus probable qu'ils construiront leur propre mythe sur cette époque.
Roman Grinkiev, j'aimerais que vous me racontiez cette histoire.
Je n'avais ni envie d'être cosmonaute, ni envie d'être footballeur. J'ai tout de suite su qui je voulais être. Et je me suis retrouvée dans cette tendance. Du fait de mon jeune âge, je ne savais pas vraiment. J'étais tellement passionnée par la bandoura.
C'est une table en bois asymétrique, au croisement du luth et de la harpe. La bandoura. En raison de son histoire, elle est devenue plus que l'instrument national. Elle est devenue pour certains la voix de l'Ukraine. Le destin de l'instrument et la figure ancestrale des Kobzars, ces bardes qui peignaient les exploits héroïques des Cosaques, restent l'illustration paradoxale
du destin de la culture traditionnelle au travers de l'époque soviétique. Валерий Мармель, директор du musée de la Бандура de Переяслав Мельницкий.
В Украине.
En Ukraine, les Kovzars ont été persécutés avant l'époque soviétique et pendant l'époque soviétique aussi avec une rare cruauté. Il faut dire une chose, en 1902, au 12e congrès archéologique, un recensement des joueurs de Kobza a été fait. Il y avait alors environ 3000 Kobzars traditionnels. Plus tard, lors du premier congrès des Kobzars à Kiev dans les années 30, c'est comme ça qu'on appelait ce congrès, mais ce n'était pas le premier en fait. On a réussi à trouver deux joueurs de Kobza. Les autres avaient déjà été supprimés pendant cette courte période. Les Kobza ont tous disparu de façon catastrophique. Les 3000 Kobza ont dû être convoqués à Kharkiv et tous liquidés là-bas. D'après le témoignage d'un Kobzar qui a survécu à ce massacre, il n'a été sauvé que parce qu'il est tombé malade la veille. Et quand il s'est remis, quand il est arrivé à Kharkiv, les gens lui ont dit « Sauve-toi, tous ceux qui étaient au théâtre sont morts ».
Roman Grintiev, c'est une légende ou est-ce que c'est un fait historique ?
Il existe des photographies de ce congrès. Ces gens ne sont plus. Mais il n'y a aucune reconnaissance officielle de ce fait aujourd'hui.
Est-ce qu'il pourra me raconter cette histoire ?
Oui, c'était un congrès organisé à Kharkiv par ce fameux mouvement de popularisation, comme quoi il fallait propager la musique populaire. Tout se passait très bien, très gentiment. Et ensuite, je ne me rappelle plus exactement où, les autorités ont proposé de déplacer le congrès du côté de la Russie. Et on les a mis dans un train. Ils ne sont jamais arrivés. Ils ont été fusillés en chemin.
А ти старая, жалю умлівала, ой, діти, діти, я ж вас годувала. Ой, як тяжко важко, а біл камінь голодати, ой, так тяжко важко дітей годувати.
Ой. One, two.
А дітина поє,
hey,
а барзні для зважаю.
Kiev, dans un studio de répétition improvisé, nous retrouvons Oleg Skripka, figure d'un rock alternatif ukrainien post-soviétique. Il répète avec son groupe les VV, dont le nom vient d'un livre de Dostoïevski, un autre ukrainien méconnu. Vopli Vidioplasova, c'est l'histoire d'un valet devenu fou.
L'Ukraine, c'est un... un des pays les plus jeunes dans le monde. On a 11 ans. L'histoire du peuple était manipulée plusieurs fois par des pays différents. trois siècles, on était manipulé, notre histoire était manipulée par l'histoire, l'histoire de la Russie. On a perdu le côté patriotique. On n'est pas du tout patriotique. Quelque part, les Ukrainiens, ils sont assez quoi. Ils sont doux, c'est les gens doux, c'est pas les gens durs. À ce côté, on va être toujours utilisé et manipulé par des autres peuples.
Qu'est-ce que toi tu fais dans ta musique où tu sens qu'il y a un lien possible avec des traditions ou avec des groupes ou avec des musiques qui seraient des musiques ukrainiennes?
Ce que j'essaie de faire moi-même, c'est pas rester dans Naphtaline. Naphtaline, ça existe? Naphtaline. Et même de pas refaire la musique alternative qui existe en Europe, c'est pas possible. On a pas la même mentalité, on n'est pas européen. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est justement le mélange, la tradition musicale contemporaine et la tradition ancienne de musique du pays. C'est ça le plus intéressant. Le style de musique, c'est rock ethno-rock.
В небому звісному краю занепокоєний хожу. По безпорадному буті крокують не люди серці. Серед істот, серед могил, за страх і мара побуди. Гуляють боги в небесах, їх споглядає шебала.
On est ouvert et même dans la musique de VV, on peut entendre la musique moldave, la musique juive et géorgienne et la musique américaine, anglaise et française bien sûr. Les années 80, la culture alternative était localisée dans les petits cafés au centre de Kiev. C'était vraiment le style de l'intelligence de l'Union soviétique. Après de ça, c'est parti la vague rouge.
Il fallait tout casser à l'époque.
Un des premiers concerts, par exemple, une salle, c'était les salles de danse des discothèques soviétiques dans les quartiers périphériques de Kiev. Le jour avant du concert, ils mettent toute l'électricité, tous les appareils, le sono, les amplificateurs. On est sur scène et on joue tout le programme avec tout le mouvement, toute la lumière. Mais dans la salle, il n'y a pas de public. Le comité de contrôle, je sais pas quoi, contrôle politique ou contrôle des paroles. Ils ont avant... C'est les gars du comité de consommation. Ils ont toutes les paroles du groupe. Ils regardent le programme.
Le jour se couche. Il cache des ennuis dans la nuit.
Avec le carafe, avec tout ça, tu sais, le style communiste.
Des travailleurs sont fatigués de travailler.
Et après, ils mettent le tampon sur les paroles. Ils signent que c'est... Принята програма, як сказати.
Це accepté, qu'on peut jouer ce...
C'est accepté, voilà, c'est accepté le programme. Et quand le programme est accepté, le jour après, tu joues le programme.
Eh bien les gens, venez danser au club. Nous y allons danser. Danser. se rappelle toute la semaine. Il y a beaucoup des sentiments et des idées. En attendant le chouette dimanche, the dance hall invites us. Au bal local, nous allons danser. Danser. Heureux, nombreux, nous allons danser.
L'absence de système, l'absence de la direction culturelle, c'est beaucoup pire que la direction peut-être un petit peu stupide. Parce qu'on voit maintenant, moi je vois le plus tragique pour notre société. Société, c'est grand monde sur la chanson criminelle. On a 2,5 chaîne radio FM, FM station à Kiev. Ils passent toute la journée les chansons criminelles. C'est la grande mode.
Qu'est-ce que tu veux dire par chansons criminelles?
Chez nous, c'est les chansons de mafia. Et on a les enfants, ils écoutent ces chansons-là, ils regardent les films et ils veulent vivre avec ces villas. Et après on a plein de problèmes à l'école, on a le problème de drogue et tout ça. Sur la radio FM, on a 2% chansons ukrainiennes dans le pays entier.
Finalement, c'est la domination russe qui continue sous une autre forme aujourd'hui, sous la forme de la musique de variété.
Voilà.
Dans la nuit du 26 avril 1986, à 1h21, une petite ville au bord du Pripyat, au nord de l'Ukraine centrale, sort définitivement de l'anonymat. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose et lâche dans l'atmosphère une radioactivité 30 fois supérieure aux bombes de Nagasaki et Hiroshima. C'est la plus grosse catastrophe nucléaire de tous les temps. Tchernobyl est devenu le symbole du pouvoir nucléaire incontrôlé, mais aussi celui de l'effondrement du système soviétique, incapable de faire face aux besoins de sécurité, de transport, d'information, de santé. Politiquement, Tchernobyl a été un argument majeur pour achever l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Dans les villages autour de Tchernobyl aussi, on chantait. À Gavronchina, un groupe de femmes déplacées n'a gardé de son village que les chansons. Nous les retrouvons le temps d'un repas.
Pierre, Pietia,
здравствуйте.
Здравствуйте.
То Мария. Мария Алексеевна. Мария. Можно назвать пани Мария просто. Полина.
Баба Мария.
Полина. Люба.
Проходите, пожалуйста. Заходите, здесь проходите.
Entrez donc dans la maison. Déshabillez-vous. Enlevez vos vestes.
Katia, on est ici à Gavronchina. Et on s'est tous réunis avec vos amis et chanteuses, mais je crois que vous n'avez pas toujours habité là.
C'est en 86 que je suis venue habiter ici, de Rychitsa. Il y avait beaucoup de déplacements à la campagne. Tous les habitants du village déménageaient.
Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là sur ce qui se passait?
On savait que ça avait pété là-bas, à la centrale atomique. On nous a ordonné de ne prendre que nos papiers. On nous a amenés hors du kolkhoz. On nous a mis dans les bus et nous voilà partis, Dieu seul le sait où. Il y en avait qui pleuraient, tout le monde était triste. On nous a jetés quelque part.
Qu'est-ce que vous avez laissé?
Tout.
Il y avait tout, le métal, le kolkhoz. On vivait comme il fallait. Le gouvernement, il est venu avec les camions et ils ont tout pris. Heureusement, on nous a rendu notre argent.
Vous avez tout laissé. Ce que vous n'avez pas laissé, c'est vos chansons, les chansons que vous connaissiez.
Oui, oui. On les a toutes prises. On ne les a pas abandonnées à Rečica.
C'est tout ce qui vous reste de la région.
C'est factiquement ce qui vous reste de votre famille, de votre батьківщини.
Oui, c'est tout ce qui nous reste de notre terre natale.
Я в мене родина, дай далеко від мене. Ой, чую я
Я вже інше, бо переживають, що
вже
треба за стіл.
Alors on va aller manger les pommes de terre.
Отже, підемо їсти картоплю.
Так.
Гость наш дорогий.
Вот.
Чтобы давай мы всегда гостей со всего мира.
Nous avons fait de la... Avant, quand on était chez nous, on faisait de la vodka à la passe du blé ou du seigle. Et on cachait dans les forêts les alambics et on allait dans la forêt et on faisait la vodka. Et quand on était tout petit, après, on savait toujours que nos parents, ils faisaient de la vodka maison, mais c'était interdit avant. Alors c'est pourquoi on cachait les alambics dans les forêts. Voilà, il y avait toujours... Il y avait aussi, à l'époque de Khrushchev, à l'époque de Staline, il y avait toujours la lutte contre la vodka fait maison.
Est-ce que la vodka était meilleure quand elle était cachée?
En fait, on faisait de la vodka à la base du seigle, du blé. C'est pourquoi elle était meilleure.
Merci
beaucoup d'être venu. Et à nos invités.
Что вы нас уважаете?
Что мы были все счастливее.
Вони поруч були, там між ними може...
3 кілометри було.
Да.
Це так, як вже соберемося, ось компанія собере себе.
А старі магнети...
Ну, все одно вже ж
родина... Nous nous sommes intégrés, nous nous sommes habitués à vivre dans ce village, mais à chaque fois quand on se réunit, on se souvient toujours de notre patrie. Les jeunes, pour eux, c'est plus facile, ils se sont intégrés beaucoup plus facilement.
Comment ils vous reçoivent, les gens du village ici? Quel rapport vous avez avec eux aujourd'hui?
En fait, ils pensent que nous ne sommes pas d'ici et nous les gênons. Nous nous sentons des fois comme les étrangers ici. Et très souvent, ils sont jaloux parce que nous touchons un petit peu plus, quelques grignards de plus, parce que nous avons été touchés par la radiation. Mais avant, quand nous sommes venus, ils nous appelaient les vieux de Tchernobyl, les mendiants de Tchernobyl.
La catastrophe de Tchernobyl a constitué une espèce de fin symbolique de l'ère soviétique. Pour les paysans de cette région, ça a été aussi la fin de ce monde traditionnel. Евгений Ефремов.
В тот момент это был просто для них
этномузыколог.
Какой-то такой очень важный трагический рубеж.
Oui, au moment où ça s'est produit, ça a été une limite très importante et tragique dans la vie de ces paysans.
Это событие.
Cet événement. la tragédie de Tchernobyl pour tous. Ça a été comme un retour au point zéro, d'après ce qu'ils en disent.
Они так и говорят. Это было еще до Чернобыля, а вот это уже после Чернобыля. То
есть une frontière dans leur vie, c'est-à-dire qu'il y avait une vie avant Tchernobyl et maintenant une autre a commencé.
Как бы рубеж в их жизни. Одна жизнь была до того, и другая совсем наступила после того. Изменилась среда жизни, среда их обитания.
Раз изменилась среда. La façon de vivre a changé. Leurs habitudes aussi.
Просто многим.
Beaucoup ne pouvaient plus faire à la maison ce qu'ils faisaient avant.
Из того, что они раньше делали дома. Нет леса,
нет привычного пейзажа, plus de paysage connu,
нет привычной земли. Нельзя
plus de terre connue ou faire pousser quelque chose.
Нельзя кормить корову так.
On ne pouvait plus nourrir les vaches ou les laisser paître où on voulait.
Нельзя построить дом.
Ni construire sa maison selon les méthodes ancestrales.
Как строили твои предки. По такому фасону.
Car les arbres n'étaient plus bons.
Так, потому что кровля так вот. То есть
Et même dans les détails les plus infimes, on ne pouvait plus cultiver le lin ni le filet. C'était fini tout ça. On ne pouvait plus faire les confitures comme avant avec les baies de la forêt. Tout simplement, la plupart des choses avaient cessé d'exister. Pareil avec les coutumes traditionnelles. Peut-être que les changements du paysage y sont pour quelque chose. Beaucoup de chansons avaient perdu de leur signification. Et les rites aussi ont disparu.
Проведу русалки, проведу, да я все краю заломлю. Вам, русалочки, веночки, а нам молодым церкочки. Вам, русалочки, в земле спать, а нам молодым жить тоже.
Pour vous, l'événement le plus tragique de votre histoire, ça n'a pas été les grandes famines, ça n'a pas été la guerre, ça a été Tchernobyl.
Потому що нас вигнали з родини. Ви знаєте, яке було чуття? Батько положив голову за родину, а мене з родини вигнали. От більш далеко, то через два райони.
Parce que pour moi, c'est Tchernobyl qui est le moment le plus tragique de mon histoire. Pourquoi ? Parce que j'ai été obligée de quitter mon pays, ma région. Et on m'a obligée de le faire.
Parce qu'elles ont revisité leur maison abandonnée.
Ah oui, як їздили, да, до своїх покинутих хат, бачили їх, да?
Да, їздили.
На грубки їздим.
Повивозили все.
Там дикі свині живуть по хатах. Лосі ходять такі гладючі. О, олені з такими рожками. Ну, красота така.
Tous les ans, on va voir. On va voir notre village et nos maisons quand on va au cimetière pour commémorer les morts. Et ce qu'on a vu, toutes les maisons sont toujours là, sauf qu'il n'y a pas de vitres. Il y a des sangliers qui habitent dans ces maisons, des cerfs qui se promènent, des chevreuils.
Allons-y.
Oui.
Non, on peut plus supporter. À la santé des maîtres de la maison. Bon, allons-y. À votre santé, à vous. Allons-y, allons-y.
В одно село мы попали, где это был сентябрь, как раз
un jour en septembre, nous sommes arrivés dans un village où les paysans arrachaient les pommes de terre. Ils les déterraient, nous les avons aidés. Ensuite, ils ont dressé la table dans la cour. Ils ont fait cuire les pommes de terre, ils ont amené le samagon. Nous avons bu, nous avons mangé et ils ont commencé à chanter. Ils savaient que j'enregistrais des chansons, ils m'ont dit « Hé, petit, souviens-toi de cette chanson ». Qu'en Ukraine, on sache que nous vivons dans la zone interdite de la même façon qu'avant. Qu'on sache que nous plantons nos pommes de terre comme avant. Et que nous chantons toujours nos chansons.
Yevgeny, est-ce que vous vous souvenez de ce chant ?
Oui.
Vous pourrez chanter ?
Vous pouvez chanter ?
Ой, журавко, журавко, ой, журавко.
великого журавеко. О, чого є кричиш щого ранку?
Les silences de l'Empire. Avec ce soir les femmes du village de Krivtivka, Babahana, Nadia, Efrosinia, Tatiana, ethnomusicologue, Valérie Marmel, directeur du musée de la Bandoura de Periaslav Melnitsky, Miroslav Papovitch, directeur de l'Institut de philosophie de Kiev, Vladimir Skouratovsky, critique et écrivain, Sacha Garatchouk, philologue, Roman Grinkiev et Taras Kompanichenko, bandouriste, Oleg Skripka, chanteur, Evgeny Efremov, ethnomusicologue, et les femmes du village de Gavranchina. Traduction Victoria Pievka, Cécile Assinard. Avec les voix de Nicolas Struve, Michel Nersessian, Tonia Galievski, Olga Abrego et Anna Miasedova. Un grand merci à Irma Inaridze pour son aide précieuse et à Olivier Guillaume. Avec le soutien de la Société civile des auteurs multimédia et le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Ukraine. Surpris par la nuit, une émission de Pierre Getchel, réalisation Jean-Philippe Navarre. Prise de son Pierre Monteil, Yves Baudry, Pierre Mine. Mixage Michel Kreis. Demain, la suite des silences de l'Empire, où nous filerons vers l'ouest, du côté des Carpates.
C'était « Dans la solitude des champs de blé », le premier épisode de la série documentaire « Ukraine, les silences de l'Empire » de Pierre Getchel, réalisé par Jean-Philippe Navarre. Première diffusion le 13 avril 2004. Téléchargement et réécoute sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.